Bonjour à toutes et à tous. C'est par la grâce de Dieu que ce matin encore je me tiens devant vous, après avoir été malade un peu plus tôt dans la semaine. Et je sais que d'autres aussi l'ont été cette semaine. Et c'est justement avec empressement, parce que maintenant je suis en forme de nouveau, que je vous invite à suivre la lecture du texte de ce matin, qui fait suite au récit de la vocation de Moïse, appelé par Dieu pour libérer son peuple de l'Égypte. Et donc je vous invite à suivre la lecture de ce texte qui se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 4, à partir du verset 18. Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse « Vas-y, en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang !» Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Mari de sang !» à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Prions ensemble. Seigneur, c'est devant ta parole que nous nous tenons, prêts à l'écouter, prêts à t'écouter, Seigneur. Et veuille encore nous parler ce matin d'une manière claire. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous avons particulièrement besoin d'entendre quelque chose venant de toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu vivant qui parle encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce texte et merci de nous ouvrir l'intelligence pour le comprendre. Nous te bénissons encore pour ce moment où nous pouvons simplement être attentifs à ta voix. Nous te louons pour cela. Amen. Moïse est en route. Ça y est, après avoir longuement discuté avec Dieu, chapitre 3 et la moitié du chapitre 4, Moïse y va. Il se rend en Égypte. Et notez que s'il se met en route, c'est parce que Dieu l'envoie. Autrement, Moïse serait resté berger dans le pays de Madian. Et nous pouvons situer tout cela sur une carte, les différentes étapes qui sont rapportées dans notre texte. Alors j'ai mis des numéros et j'ai mis un emplacement sans être bien sûr certain que ce soit à ces endroits précis que les choses se sont passées, mais simplement, à part peut-être pour le mont Horeb, mais simplement à titre indicatif, qu'on puisse voir finalement en quoi consiste ce voyage de retour vers l'Égypte. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons comment tout ce que Dieu avait annoncé auparavant commence à s'accomplir. Dans ce texte, nous voyons Moïse quitter Madian, là où il habitait, là où il vivait avec sa famille, partir avec sa famille pour l'Égypte. Et vous voyez un petit peu sur la carte la distance entre les deux régions. Nous voyons aussi dans ce texte qu'une attaque soudaine de Dieu survient lors de leur voyage. Et finalement, malgré toutes ces péripéties, la nouvelle que Dieu va s'occuper des Israélites parvient aux anciens et à tout le peuple. Et c'est bien ce message, accompagné de signes, qui importe. Dieu a vu la souffrance de son peuple et il promet la délivrance. L'Éternel parle. L'Éternel agit. L'Éternel annonce même l'avenir. Et tout notre texte affirme, exprime que nous avons affaire au Dieu souverain, au Dieu maître de tout, au Dieu pour qui aucun détail n'échappe. Et j'aimerais voir cela d'abord dans un premier temps en disant que la mission ne sera pas facile, mais Dieu est souverain. Parce que le bras de fer qui a lieu entre Dieu et le Pharaon et qui va davantage nous être raconté dans les chapitres suivants est annoncé dans notre texte. Dieu, bien sûr, avait même déjà prévenu Moïse de l'entêtement du roi d'Égypte au chapitre 3. Et il revient de nouveau sur cette confrontation qu'il va y avoir. Moïse devra se présenter devant l'homme le plus puissant du pays, voire de son temps. Mais avant d'arriver à ces versets 21 et 23, regardons d'abord le début de notre texte. D'abord le verset 18. Nous lisons que Moïse s'en va. Et il faut tout de suite, parce que si on commence le texte comme ça, il ne faut surtout pas oublier de le rattacher à ce qui précède. Donc il faut tout de suite rattacher ce mouvement de Moïse à ce qui précède. Ce qui précède, vous le savez, nous en parlons depuis déjà 2 semaines, Dieu vient de se révéler à Moïse au mont Horeb, dans un buisson ardent. Il vient de lui confier une grande mission qui nécessite qu'il retourne en Égypte. Donc Dieu lui envoie une mission et notre texte commence « Moïse s'en alla ». Voilà pourquoi Moïse bouge, voilà pourquoi Moïse se met en mouvement. Dieu a parlé, Moïse exécute. Et avec une certaine insistance, on remarque dans notre texte que l'auteur, qui est Moïse lui-même, répète plusieurs fois le verbe « retourner ». Vous allez le remarquer au verset 18, « Laisse-moi retourner vers mes frères ». Au verset 19, l'Éternel lui dit « Vas-y, retourne en Égypte ». Et puis au verset 21, nous lisons également que Dieu lui dit « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main ». C'est le grand retour de Moïse, après 40 ans d'éloignement. Le grand retour de Moïse est, en premier lieu, ce que Moïse fait, et ce qui était de coutume aussi à l'époque, c'est qu'il prend congé de son beau-père, chez qui il a travaillé en tant que berger. Et la permission de retourner en Égypte, eh bien, comprend aussi femmes et enfants. Femmes et enfants. Et dans cette seule parole qui nous est rapportée au verset 18, Moïse n'évoque pas du tout ce qui s'est passé au mont Horeb. Il ne parle pas du tout de l'appel qu'il a reçu. Il ne parle pas du tout de la révélation de Yahvé. Non, à la place, il parle des frères, de ses frères, les Israélites, qui sont encore en Égypte. Et souvenons-nous, esclaves en Égypte. Alors, Jéthro est d'accord, voilà, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de discussion apparemment, tout va bien. Moïse peut partir. Moïse doit donc retourner dans ce pays qu'il a voulu fuir. Et a raison, puisqu'il avait tué un Égyptien il y a 40 ans en arrière et qu'il était recherché. C'est ce que nous lisons au chapitre 2. Mais désormais, maintenant qu'il est à Madian, à plusieurs kilomètres de l'Égypte, comme vous l'avez vu sur la carte, le Dieu qui connaît son passé le rassure. Vas-y, verset 19. Retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Le Dieu qui connaît le passé de Moïse le rassure. Et Moïse donc peut partir, il part avec sa famille et son fameux bâton dont on a parlé la semaine dernière. Ce fameux bâton qui est désormais le bâton de Dieu. L'instrument de la puissance divine. Ce n'est plus simplement un bâton de berger. C'est le bâton que Dieu va utiliser en utilisant Moïse pour accomplir des miracles. Le Dieu souverain a donc évoqué le passé. Et maintenant, lorsque nous regardons la suite du texte, il va évoquer l'avenir. Il va parler de l'avenir. Et c'est là que nous en arrivons au verset 21 à 23. Parce que, en fait, Dieu n'envoie pas son serviteur pour une mission facile. Et j'entends par là qu'il y aura des obstacles. Et ce qui est surprenant, c'est ce que Dieu dit à ce sujet, au sujet de l'obstacle en question. Verset 21. « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, c'est le Seigneur qui parle, de mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. » Voilà quelque chose qui, voilà, même si on connaît ce texte, voilà quelque chose qui est étonnant. Dieu dit, j'endurcirai son cœur et il ne vous laissera pas partir. La mission ne sera pas facile. Dans la suite du livre de l'Exode, nous lisons aussi que c'est le Pharaon qui endurcit son cœur, ou que son cœur devient dur. Et en fait, l'attitude du Pharaon qui s'obstine à ne pas laisser partir le peuple de Dieu fait de lui l'opposant majeur, principal de Dieu dans cette histoire. Son attitude d'obstination fait de lui l'opposant de Dieu. Il est clairement responsable de son refus. Clairement responsable de son obstination, de son entêtement, de son endurcissement. Et nous aurons l'occasion de le voir dans les chapitres suivants, à quel point, envers et contre tout, le Pharaon s'obstine. Il faut au moins 10 plaies pour que le Pharaon puisse céder. Combien le Pharaon s'obstine encore et encore. Donc, à coup sûr, lorsqu'on lit la suite de l'histoire, c'est lui le responsable de cet entêtement. Pourtant, dans notre texte, nous lisons « Dieu dit, j'endurcirai son cœur ». C'est une manière, en fait, d'exprimer la souveraineté de Dieu. Dieu n'est en rien responsable du mal que commettent les hommes, mais il peut souverainement utiliser ce mal pour accomplir ses plans. Il peut se servir du mal que peuvent commettre les hommes pour accomplir ses plans. Voilà pourquoi il dit « j'endurcirai son cœur ». Et effectivement, l'obstination du Pharaon va causer toutes sortes de plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, dont l'ultime plaie qui est la perte de son fils aîné. C'est cet événement décisif que Dieu utilise pour permettre aux Israélites de sortir d'Égypte. La mission ne sera pas facile. Moïse ne devra pas se faire d'illusions, mais en annonçant tout cela à l'avance, en annonçant l'avenir, l'Éternel montre qu'il est au contrôle, qu'il maîtrise les circonstances. Oui, la mission ne sera pas facile, mais il sait déjà cela. Et d'ailleurs, il est souverain sur ça. Et cette vérité concernant Dieu, que parfois nous rappelons que Dieu est souverain, ne doit pas nous échapper dans notre contexte actuel. Nous en avons déjà un petit peu parlé tout à l'heure, à travers les prières, de notre contexte actuel, de la situation au Proche-Orient et dans d'autres pays qui sont en guerre. Et tout cela peut nous faire frémir. En France aussi, les gens ont peur, maintenant, depuis peu. La situation présente d'urgence attentat cause peut-être même de l'anxiété chez certains d'entre nous. Souvenons-nous alors que notre Dieu, celui que nous adorons ce matin, celui contre qui le Pharaon s'est opposé à l'époque de Moïse, est au contrôle de tout. Dieu réussit toujours à accomplir ses plans. Dans notre texte, son plan est de libérer les Israélites de la main des Égyptiens, de la main du Pharaon. Et tout à l'heure, je parlais de bras de fer, mais en fait, qui peut véritablement lutter contre Dieu? Il est vrai que Dieu n'a pas empêché le Pharaon d'être obstiné, tout comme il n'empêche pas toujours l'homme de faire le mal. Et pourtant, Dieu reste au contrôle. Dieu aura le dernier mot. Et c'est à la croix que nous voyons précisément comment Dieu a eu le dernier mot. Les hommes qui ont voulu tuer Jésus sont parvenus à leur fin. Et dans cette affaire, l'injustice était à son comble, parce que c'était un innocent qui était condamné. Donc ces hommes qui ont voulu tuer Jésus sont parvenus à leur fin. Mais Dieu était au contrôle, parce que cette mort voulue des hommes a servi à notre salut. Et voici des versets qui résument très bien ce que je viens de dire. Actes chapitre 4, versets 27 à 28, dans cette prière que les chrétiens adressent à Dieu, voici ce qu'ils disent à Dieu. « Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. » Écoutez le verset 28. « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. » Dieu n'est pas responsable du fait que ces hommes aient voulu du mal à Jésus. Mais Dieu utilise, se sert de ce mal pour accomplir son plan. C'est sa décision. Cette souveraineté de Dieu face au mal est rassurante pour nous encore aujourd'hui. Et peut-être d'autant plus dans la période que nous vivons en ce moment. Parce que face au mal, Dieu aura toujours le dernier mot. Ce que l'Éternel dit à Moïse est censé le rassurer. Oui, le Pharaon va s'obstiner, mais cet endurcissement aura une conséquence tragique. Dieu lui dit « Je ferai mourir ton fils aîné ». Et en parlant de fils, nous en arrivons à cet incident qui se produit lors du voyage de Moïse, qui était avec sa femme et ses fils. Et c'est là que nous abordons ces versets 24 à 26, qui montre que le libérateur que Dieu a choisi n'est pas parfait, mais encore une fois, il faut l'affirmer, mais Dieu est souverain. Ces versets 24 à 26 sont réputés difficiles à comprendre, énigmatiques. Tous les commentateurs le reconnaissent, et je pense que nous devons avoir la même humilité face à un texte qui est difficile. Bien des éléments nous échappent à première lecture, et à commencer par la raison pour laquelle Dieu s'en prend à Moïse. Il est le libérateur que Dieu envoie, que Dieu a appelé pour délivrer son peuple, et pourtant, durant ce voyage de retour, il est menacé par Dieu lui-même. Et cette scène, il me semble, va à l'encontre de tous nos calculs concernant Dieu. Je pensais que Dieu était comme ça. Non! Selon notre logique et selon notre point de vue, si Dieu appelle quelqu'un pour une mission, ce n'est pas pour le menacer de mort ensuite. Mais nous nous trompons en raisonnant de cette manière-là. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas être mis dans une case. Tout simplement parce que Dieu est souverain, il est libre. Nous l'avons vu aussi dans le psaume 115, il fait ce qu'il veut. Il peut appeler quelqu'un et le menacer de mort ensuite. Il a le droit de le faire. Il est souverain. Que cela colle ou non avec notre logique ou notre sensibilité. Et c'est une autre facette de sa souveraineté. Dieu choisit librement ce moment, pendant le voyage, pour régler une question importante, primordiale avec Moïse. Je relis le verset 24. « Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. » Alors comme dans le texte hébreu, il semble que ici les traducteurs de la seconde 21 ont choisi de ne pas préciser qui est celui qui est attaqué. En hébreu, on a juste le pronom « il », « le ». Et beaucoup pensent spontanément à Moïse. Il s'agit de Moïse. Dieu cherche à attaquer Moïse. Mais d'autres suggèrent quand même que c'est peut-être son fils dont il est question. Que Dieu cherche en fait à attaquer son fils parce qu'il en est question au verset 25. Moi, je suivrai quand même pour ma part ceux qui pensent que Dieu s'en prend à Moïse. Mais dans les deux cas, même si on n'arrive pas à trancher complètement, dans les deux cas, si l'Éternel s'en prend à quelqu'un, c'est qu'il mérite la mort. Si Dieu cherche à faire mourir quelqu'un, c'est qu'il mérite de mourir. C'est que cette personne-là mérite de mourir. Et s'il mérite de mourir, ça signifie qu'en fait, il y a une transgression quelque part, qu'il y a un péché quelque part, une désobéissance. Et visiblement, lorsque nous voyons l'attitude, la réaction de Séphora, la femme de Moïse, elle agit de la bonne manière. Alors, on ne sait pas comment elle a su ce qu'il fallait faire, mais nous lisons en verset 25, « Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Il est clair ici, lorsqu'on lit ce verset et le suivant, que Séphora est en train de circoncire son fils. Ce qui signifie qu'il ne l'était pas. Or, la circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait donnée autrefois à Abraham et à ses descendants. Pour faire partie de l'alliance avec Dieu, il fallait que chaque mâle se fasse circoncire. Je relis pour cela le passage de Genèse 17. Genèse 17, les versets 10 à 14. Ce que Dieu dit à Abraham, « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. » Et écoutez bien le verset 14. « Un homme incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple. » Comprenez qu'il mérite la mort. Il sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, la transgression en question est très grave. Le fait que le fils de Moïse ne soit pas circoncis est très grave, parce que ça veut dire qu'il est tenu à l'écart de l'alliance avec Dieu. Et tout ce qu'il mériterait, c'est de mourir. Alors c'est vrai que si on croit que c'est Moïse qui est menacé, ben Moïse a aussi sa part de responsabilité. Lui qui est hébreu, né d'hébreu, même s'il a été élevé à la cour du Pharaon, n'a pas fait circoncire, lorsqu'il a eu son fils, ne l'a pas fait circoncire, comme Dieu l'avait demandé à Abraham. En tant que père, c'était sa responsabilité dès que l'enfant atteignait 8 jours. Mais Moïse ne l'a pas fait, semble-t-il. Et c'est une explication possible à la sentence qui tombe là, à ce moment-là, sur Moïse. Et Séphora a le bon geste. Elle fait ce que Moïse aurait dû faire. Elle se place du côté de l'alliance avec Dieu en faisant ce geste. Et cependant, cela n'explique pas tout, parce que comment comprendre ce qu'elle déclare à Moïse lorsqu'elle dit « Tu es pour moi un mari de sang ». Alors le sang, dans notre histoire, c'est probablement celui de leur fils qui vient d'être circoncis, surtout avec une pierre tranchante. Je vous épargne les détails, mais le sang dont il est question, c'est celui de leur fils. Et c'est avec ce sang, en lien avec la circoncision, que Séphora et Moïse sont désormais liés dans la même alliance. Tu es pour moi un époux de sang, grâce à cette circoncision. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin et pour rester un peu dans le mystère aussi, ce geste de la circoncision qui va jusqu'à toucher les pieds qui pourraient désigner par euphémisme les parties génitales de Moïse, ce geste-là reste tout de même bien, bien étrange. Mais on note que par sa bravoure, si on peut qualifier cela de bravoure, eh bien, ce qu'elle fait suffit pour que Dieu n'aille pas jusqu'au bout. Pour que Dieu renonce, effectivement, à tuer Moïse. Et là, nous poussons un ouf de soulagement. Verset 26, l'Éternel le laissa. Dieu fait grâce. C'est ça que nous devons retenir de cet épisode. Dieu cherche à faire mourir Moïse, mais il fait grâce. Et plus tard, pour que le peuple puisse échapper à la dernière plaie qui est la mort de tous les fils aînés, du sang devait être appliqué sur les poteaux et le linteau des portes. Le sang d'un agneau ou d'un chevreau. Dieu fait grâce. Et encore beaucoup plus tard, pour que l'humanité puisse échapper au châtiment éternel, du sang a été versé. Le sang du Fils de Dieu, crucifié sur une croix. Dieu fait grâce. Heureusement, le Dieu souverain qui échappe à tous nos calculs et à notre logique n'est pas un Dieu capricieux, mais c'est un Dieu de grâce. Et comme l'a écrit le professeur Émile Nicole en rapport avec ce texte, je le cite, « Dieu aurait tous les jours tant de raisons de nous faire mourir, puisque nous sommes pécheurs. C'est de sa grâce que nous vivons. Il veut que nous en soyons toujours conscients et reconnaissants. » J'avoue qu'en lisant cette phrase, ça m'a vraiment heurté. Mais en y réfléchissant, oui. Dieu aurait tous les jours tant de raisons de nous faire mourir. C'est de sa grâce que nous vivons. Il veut que nous en soyons toujours conscients et reconnaissants. C'est de sa grâce que nous vivons, frères et sœurs, couverts par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus notre Sauveur. Dieu fait grâce à Moïse. Tout comme sa grâce et son amour sont les raisons de son intervention en faveur de son peuple. Et c'est ce que nous voyons dans un troisième temps. Que le peuple peut avoir foi parce que Dieu l'aime et qu'il est souverain. Je dois avouer qu'il y a un dessin animé lors duquel j'ai pleuré. C'est le Roi Lion. Si vous l'avez vu, je pense que vous savez à quelle scène je fais référence, à quel moment j'ai pu verser quelques larmes. Bon, j'étais jeune, hein, mais ça ne justifie rien. Mufasa, pour ceux qui ont vu ce dessin animé, Mufasa voit son fils Simba en danger, pris au piège au milieu d'un troupeau de gnous en pleine course. Le père court à sa rescousse, parvient à le sortir de là. Mais la partie triste, et je la raconte même si vous ne l'avez pas vue, c'est que le père meurt dans l'histoire. Alors, pas en sauvant son fils, pour d'autres raisons, vous pourrez regarder si ça vous intéresse, mais ce que je veux relever de cette scène, parce que je ne veux pas juste parler du royaume comme ça, c'est l'amour du père qui brave tous les dangers pour son fils. Un père qui est prêt à tout pour sauver la vie de son fils. Connaissez-vous un autre père qui soit ainsi? Je reviens aux versets 22 et 23. Dieu dit, tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné, et je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. C'est la première fois dans la Bible qu'Israël est appelé fils de Dieu. Fils aîné plus précisément, ou fils premier-né dans d'autres traductions. Et plusieurs comprennent que le peuple d'Israël est le premier-né dans le sens où c'est la première nation parmi toutes que Dieu a choisie. Et on sait que c'est par cette nation-là que Dieu étendra sa bénédiction à toutes les autres nations. Mais c'est la première nation, et donc c'est le fils premier-né, le fils aîné. Et là aussi, Dieu fait un choix qui est souverain, entièrement libre, aucunement lié au fait qu'Israël soit meilleur que les autres peuples. Et c'est ce que nous lisons plus tard dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8. Dieu dit, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Dieu aurait pu dire à Pharaon, Israël est mon peuple. Mais il choisit de montrer plutôt qu'Israël est bien plus que ça à ses yeux. Israël est mon fils. Dieu se comporte en père qui vient libérer son fils. Et voilà une autre manière de décrire ce qu'est l'Exode. L'Exode, c'est un père qui vient libérer son fils. Cependant, ne tombons pas dans le sentimentalisme. Parce que la vocation de fils de Dieu implique de la part d'Israël une totale consécration. Ce n'est pas le fils de n'importe qui, c'est le fils de Dieu. Et donc, en tant que tel, sa vocation implique une totale consécration. Dieu dit au Pharaon, « Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. » Verset 23. Aucun père terrestre ne dirait cela. Mais si le père en question est le Dieu de l'univers, il peut exiger cela, car il est Dieu. Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. La version Semeur a rendu cette dernière partie par « pour qu'il me rende un culte ». Nous voyons à la fois l'amour paternel de Dieu qui s'exprime dans ces mots et aussi l'attente qu'il a vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de son peuple. Nous comprenons alors dans tout ça, et si vous gardez un petit peu en arrière-plan l'illustration que j'ai utilisée avec le roi lion, nous comprenons alors la raison ou la sévérité de la menace de Dieu ici. Si tu refuses de le laisser partir, si tu refuses de laisser partir mon fils, je ferai mourir ton fils aîné. La réaction est forte parce que l'amour de Dieu est fort, tel un père pour son fils. Et ce thème du fils de Dieu, il faut que nous en parlions un petit peu parce qu'il traverse la Bible. Et j'en dis quelques mots. Plus tard, Dieu dira au roi David concernant son successeur, 2 Samuel chapitre 7, verset 14, « Je serai pour lui, pour le successeur de David, un père et il sera pour moi un fils. » Le roi qui règne sur Israël et qui est descendant de David est alors appelé aussi « fils de Dieu ». Le titre, tout d'un coup, est individualisé en la personne même de celui qui représente le peuple, le roi. Mais que ce soit le peuple appelé fils, ou que ce soit le roi appelé fils, aucun n'a été un fils à la hauteur. Certes, il y a eu des bons rois en Israël, particulièrement dans le royaume de Juda, qui sont restés fidèles à Dieu, mais aussi beaucoup de mauvais rois. Et quant au peuple, eh bien, nous lisons chez le prophète Osée, voici ce qu'il écrit au chapitre 11, versets 1 à 2, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, c'est l'Éternel qui parle, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices aux Baal et fait brûler de l'encens au l'honneur des idoles. » Le fils qu'est Israël n'est pas à la hauteur. C'est bien tout le contraire même. Et Dieu rappelle ici dans ce texte d'Osée ce qu'il a fait pour son fils Israël, mais celui-ci s'est détourné de lui. Et c'est alors que vient le fils qui est à la hauteur, Jésus. Jésus qui est non seulement le fils de Dieu au sens divin, au sein de la Trinité, il est Dieu le fils, mais il est aussi le fils de Dieu comme Israël aurait dû l'être. Et ça, c'est Matthieu qui le montre dans son évangile. Au moment où Joseph est averti par un ange que le roi Hérode veut tuer son enfant, Jésus, eh bien, voici ce que nous lisons en Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Et là, nous retrouvons la citation d'Osée, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Cette dernière parole permet d'identifier Jésus à Israël. Et lors de son baptême, Jésus entend la voix du Père qui lui dit ceci, Marc chapitre 1, verset 11, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et cette formulation, « Tu es mon fils », correspond à ce que nous lisons dans le psaume 2. Le psaume 2 où cette parole est adressée au roi d'Israël qui est intronisé. Donc en fait, Jésus est tout à la fois. Il est à la fois le véritable Israël, il est à la fois le véritable roi d'Israël et il est le seul fils de Dieu à la hauteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que plus tard encore, l'apôtre Paul dit au sujet des chrétiens et de Jésus, Romains chapitre 8, verset 29. « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son fils, afin que celui-ci soit le premier-né, vous remarquez, le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est grâce à Jésus, le Fils de Dieu, par la foi que nous avons en lui, que nous sommes à notre tour appelés enfants de Dieu ou fils de Dieu. Paul le dit en Galates chapitre 3, verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc oui, ce n'est pas faux de dire que nous sommes fils et filles de Dieu. Et l'apôtre Jean s'émerveille quand il écrit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Vous voyez comment le thème du Fils de Dieu traverse la Bible jusqu'à nous. Sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance, nous voyons le type de relation que Dieu veut avec son peuple. Une relation d'amour, proche, proche comme celle d'un père avec son fils. Et je suppose, mais c'est juste une hypothèse, je suppose que lorsque nous avons le sentiment que Dieu est loin de nous, en dehors du fait que c'est plutôt nous qui nous éloignons de Dieu, lorsque nous avons le sentiment que Dieu est loin de nous, c'est peut-être parce que nous ne voyons pas cette relation à Dieu comme une relation avec notre Père céleste. Dieu nous semble lointain. Oui, nous le voyons comme Dieu, mais peut-être que nous oublions de le voir comme Père. Une relation qui est beaucoup plus proche. C'est le type de relation que Dieu veut avec son peuple. C'est Dieu de son propre chef qui a instauré cette relation rendue possible par Jésus-Christ. Et j'aimerais dire, mes frères et sœurs, sachons apprécier le privilège qui est le nôtre. En Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. C'est un privilège. Et ce qui implique, comme pour Israël, une consécration entière à Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, ce n'est pas n'importe quel titre. Nous ne sommes pas fils de n'importe qui. Et donc cela implique une consécration entière à celui qui nous a rachetés. Nous sommes fils et filles de Dieu pour le servir, pour lui rendre un culte. Revenons maintenant au texte de l'Exode. Parce que, animé d'un amour paternel, Dieu vient au secours de son fils aîné. Et la fin de notre texte, les versets 27 à 31, correspondent à tout ce que Dieu avait déjà annoncé à Moïse. D'abord que Aaron va devenir le porte-parole de son petit frère Moïse. C'est ce qui était dit un peu plus tôt au chapitre 4. Là aussi, c'est Dieu qui est l'initiateur. C'est lui qui envoie Aaron, verset 27, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Ce n'est pas Aaron qui s'est dit tout d'un coup « Je vais aller voir Moïse. » Dieu l'envoie. Deuxièmement, on voit que c'est aux anciens que les deux frères s'adressent. Et ça, Dieu l'avait déjà dit aussi au chapitre 3. Puis ensuite, à l'ensemble du peuple, avec les paroles qui viennent de Dieu et avec les signes que Dieu donne. Et ça, ça correspond à ce que Dieu disait au début du chapitre 4. Et puis enfin, Dieu avait dit aussi qu'ils écouteront. Et je l'ai mentionné déjà la semaine dernière, mais je le redis ici. Au verset 31, nous voyons déjà quelque chose qui ressemble à la foi, à la confiance que le peuple accorde à Dieu. Le peuple crut. À l'annonce que Dieu va faire quelque chose pour eux, ils y croient. Ils retrouvent l'espoir. Et voyez leur réaction spontanée à la fin du verset 31. Ils se prosternèrent et adorèrent. Il n'y a pas d'autre réponse à ajouter. Il n'y a pas de réponse plus appropriée que l'adoration devant le Dieu souverain qui met tout en œuvre, par amour, pour libérer son peuple. Il n'y a pas de réaction plus appropriée que l'adoration. Et qu'il est rassurant que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Souverain, soit aussi un Dieu qui aime. Nous ne pouvons pas avoir une autre réaction que l'adoration lorsque nous considérons le si grand salut dont nous bénéficions. Au peuple d'Israël, Dieu a envoyé un libérateur, et nous pourrions même dire deux, si nous comptons Aaron, et à nous, Dieu a envoyé Jésus, l'unique libérateur, en qui nous avons placé notre foi. Entends-tu encore ce matin la bonne nouvelle que pour toi, pécheur, Jésus est mort à la croix? Pour que tu vives, Jésus est mort pour tes péchés. Et Dieu l'a ressuscité de telle sorte que tu puisses être sûr que Dieu a approuvé, a accepté son sacrifice pour toi. Et unis à Christ par la foi et par son esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Considère le si grand salut qui est le nôtre. Dieu fait de nous des fils et des filles. Et contrairement aux Israélites de notre texte, pour nous, ce n'est pas l'annonce de ce que Dieu va faire, mais il l'a déjà fait. Dieu a souverainement accompli son plan de salut par Jésus-Christ, et rien ne pouvait empêcher la croix. Aucun obstacle, quel qu'il soit, aucune circonstance ne pouvait empêcher que Jésus meure sur la croix. Et si Dieu l'a fait, c'est par grâce et par amour. Dans notre texte, si on devait le résumer, ce que nous en retenons, c'est que dans sa souveraineté et dans son amour, Dieu a envoyé un libérateur à son peuple. Un libérateur qui n'est pas parfait, mais il l'a préparé pour ça et il leur envoie un libérateur. Cet enseignement nous permet, à nous, de penser à celui qui est le grand libérateur, à Jésus. Parce que dans sa souveraineté aussi, dans son amour, Dieu nous a envoyé un grand libérateur en la personne de Jésus. Et devant cette réalité historique, devant ce qui est capital dans notre foi, nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir la même attitude que le peuple d'Israël. Nous incliner et l'adorer. Et je vous propose que durant le temps où vous pouvez encore méditer sur tout ce qui a été dit,